Et maintenant, nous vous proposons de suivre « Qu'est-ce que la prière ?» un enseignement du Père Michel Leclerc, chanoine de la Grâce à Pau, la suite des sessions à l'école de Saint-Augustin proposées par l'école de prière de la formation permanente du Béarn, un enregistrement réalisé le 9 décembre 2025 à Pau. Nous écoutons le Père Michel Leclerc.
La dernière fois, on avait vu l'intériorité augustinienne et le désir comme prière. Ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, qu'est-ce que la prière ? Je vais suivre à peu près le chapitre, mais en changeant un tout petit peu, pour essayer de faire ce qu'on appelle en langage savant une phénoménologie de la prière, c'est-à-dire simplement une description des formes de la prière. Parce que la prière prend des formes très diverses. Elle est d'abord soit personnelle, soit communautaire, et elle peut prendre, vous voyez, entre le chapelet, prière vocale, l'oraison, prière silencieuse, le chant, le silence, voilà, tout ça c'est très divers, et finalement, on va essayer de voir avec saint Augustin quel est le cœur de la prière, ce qui pourrait se retrouver dans toutes les formes de prière, mais pour ça il faut les décrire. Alors, au départ, on va partir des expressions qu'il emploie, et il part d'une autre expérience à tous. Il dit « la prière est oratio ». Alors, qu'est-ce que c'est que l'oratio ? Vous voyez, ça, c'est la même racine qu'un orateur. D'abord, la prière, c'est parler. Vous voyez, notre première expérience, Augustin, il part de choses très simples. Notre première expérience, c'est que dans la prière, nous parlons à Dieu. Voilà, je parle à Dieu. Alors, oratio, alors ça a donné aussi, vous voyez, le mot latin, c'est ce qui veut dire parler, qui a donné le mot prière. Oremus, c'est prions. Orare, c'est à la fois parler en public, l'orateur, mais c'est aussi prier. Et c'est justement parce que, au départ, la prière, c'est parler à Dieu, qu'on a pris le même mot, qui a fini par vouloir dire dans le latin chrétien, prière. Oratio, vous voyez, dans les missels, quand on fait des cours de liturgie, la prière universelle, c'est marqué oratio fidelium, prière de tous les fidèles. Donc oratio, ça veut dire prière. Mais au départ, ça veut dire discours. C'est alors pas un discours d'orateur, mais je parle. Et ça ne va pas de soi. Vous voyez, vous avez peut-être l'habitude qu'on vous dise que la prière, c'est parler à Dieu et que ça ne change rien pour vous. Je suis assez frappé avec des catéchumènes. Quand on leur dit que la prière, c'est parler à Dieu, ils vous regardent en disant « Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ?» Et ils ont raison. Vous voyez, à l'époque de saint Augustin, au IVe siècle, dire que la prière, c'est parler à Dieu, ben, les contemporains étaient surpris. Parce que Dieu, dans la conception antique, et même un petit peu dans la conception du hébraïque, Dieu, il est lointain. Il est tout là-haut. Moi, je suis là. Hein. Comment on fait, là ? Il n'y a pas de lien. Alors, Augustin nous dira comment on peut parler à Dieu, parce qu'on va parler en Jésus. Ça, je le laisse pour la fin de l'heure. Mais juste pour que vous sentiez que ça ne va pas de soi de parler à Dieu. Et Augustin dit, non, nous avons les moyens de parler à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est fait homme. Vous voyez, c'est pas moi qui m'élève jusqu'à Dieu, et qui, vous savez, en sautant comme ça, là, je vais y arriver. C'est Dieu qui descend jusqu'à moi. Hein, c'est le Christ. Dans le Christ, Dieu se fait homme. Et donc, la prière, ultimement, est possible parce qu'il y a un homme qui était 100% homme et 100% Dieu, qui a prié. Si Jésus n'avait pas prié avant moi, je ne pourrais pas être certain qu'il y a une prière humaine possible. Vous voyez, la certitude que je peux parler à Dieu, c'est qu'il y a une voix humaine qui s'est élevée de la terre. Alors, cette voix était aussi celle de Dieu fait homme, mais l'humanité du Christ a ouvert la voie de la prière. Ça, c'est vraiment important pour Augustin, parce que, comme il a une formation de philosophe antique, cette distance-là, il en a absolument conscience. Et d'ailleurs, quand on voit dans sa conversion, finalement, ce qui va déclencher sa conversion, c'est qu'il ose appeler vers le Seigneur. Avant, il cherche, mais il cherche une idée. Il cherche à se dire, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'existe pas? Ben, j'en discute, mais ça ne me concerne pas au sens où je vais lui parler. C'est une idée conceptuelle. Et à partir du moment où il lui parle, immédiatement, conversion, c'est en 386, c'est l'épisode du jardin dont j'avais parlé la toute première fois. Donc vous voyez, c'est vraiment important. Je parle à Dieu et Dieu me répond. Il y a bien quelque chose qui est interpersonnel. Révolution dans le monde antique. Je reviendrai donc sur le je qui est d'abord le je du Christ et le mien qui vient s'intégrer dedans. Mais voilà, disons juste pour l'instant, c'est possible puisque Jésus a prié, une prière humaine est possible. Qu'est-ce que je vais dire? C'est ça que je veux voir avant de revenir sur ce jeu. Qu'est-ce que je vais dire? Et là, Augustin donne trois termes. Je vais les donner dans l'ordre pour ne pas me planter. Clamatio, deprecatio, genitus. On va voir qu'il culmine dans confession. Alors, je vous donne les termes latins. Ça fait sérieux. C'est pour avoir un peu de crédibilité auprès de vous. Mais on peut très bien mettre les termes français. Clamatio, c'est crier. Une clameur. Voilà. La première chose, c'est crier au sens de appeler au secours. La première chose que j'ai à dire à Dieu, c'est « j'ai besoin de toi ». L'entrée dans la prière, c'est de dire à Dieu « j'ai besoin de toi ». Je sans toi, je ne suis rien. Et donc, c'est fondamentalement un acte d'humilité. D'humilité et d'appel au secours. C'est vraiment l'ouverture de la prière des heures. Dieu, viens à mon aide. Ça, c'est la clamatio, c'est la clameur qui monte de notre cœur. Hâte-toi de me secourir. En latin, c'est encore plus fort. C'est in adiutorium meum intende. C'est tourne-toi vers l'aide qui vient vers moi. Voilà, c'est comme si on appelait, vous voyez, comme un enfant qui voit sa maman de dos et qui tire derrière en disant au secours, tourne-toi vers moi. Voilà, là, et cette clameur, c'est vraiment important parce que c'est un acte là aussi d'humilité. C'est de reconnaître que je ne me suffis pas. Et il n'y a pas d'entrée dans la prière sans cette reconnaissance à moi-même, je ne suis pas suffisant. Je ne suis pas autonome. Donc j'ai besoin. Et donc cette humilité, c'est je me fais comme un enfant. Voilà, clamatio. Je crie vers le Seigneur. Deuxièmement, deprecatio. Deprecatio en latin, ça veut dire c'est la demande. On dit parfois un langage déprécatif en français, c'est un peu technique, mais ça veut dire je demande. Et ça, je vous fais remarquer que c'est notre. C'est souvent l'entrée dans la prière, c'est je prie quand j'ai un truc à demander. C'est assez. Et c'est naturel. Souvent, on s'en veut, on dit « je m'adresse à Dieu que pour lui demander des choses ». Mais Augustin nous dit « mais c'est notre porte, à condition de ne pas en rester là ». Et en fait, c'est « si je crie, c'est pour demander quelque chose ». On verra qu'est-ce qu'on a à demander. Ultimement, on a à demander à Dieu quoi, à votre avis ?
Sa grâce,
c'est-à-dire le salut et donc lui-même. Donc Augustin dira « le salut ». Il dira « demander Dieu à Dieu ». Donc, lui, sa vie, son bonheur, sa grâce, toi, Seigneur. Et ça sera la grande découverte des confessions, c'est que ce que j'ai demandé, en fait, je ne le savais pas, mais c'était toi que je demandais. Donc, je demande. Je crie, je demande, et gémitus, vous connaissez gémir, c'est je pleure. C'est-à-dire, alors, je pleure sur quoi? Je pleure pourquoi? C'est-à-dire, ici, il y a deux aspects. Je reconnais ma souffrance et celle des autres, parce que c'est aussi toute la souffrance du monde. Vous voyez, c'est les larmes, pour Augustin, c'est des larmes physiques qu'il a expérimentées, mais c'est je me trouve mauvais, je me trouve nul, donc je pleure sur mes péchés, mais je pleure aussi parce que le monde souffre, parce que autour de moi il y a de la souffrance, en moi il y a de la souffrance, autour de moi il y a de la souffrance. Donc je pleure, je gémis, je dis au Seigneur, dans ce monde rien ne va. Vous voyez, c'est notre expérience. Vous voyez comme c'est humain comme sentiment. Hein, c'est au secours, je te demande, je pleure. On a l'impression de décrire un enfant de 4 ans. Au secours, j'ai faim, je pleure. Demandez à toutes les mamans, elles vous diront, petit enfant de 4 ans. Et alors, saint Augustin dit, quand on fait ces trois actes, on entre dans la confessio. Confessio, c'est pas la confession au sens du sacrement de réconciliation, c'est confesser Dieu lui-même. Donc ça, c'est à la fois je demande pardon, je te remercie, mais c'est surtout je te rends gloire. Voilà, quand on dit confesser la foi ou je confesse que tu es Seigneur mon Sauveur, c'est une sorte de proclamation de la grandeur de Dieu. Et donc cette confessio, quand saint Augustin écrit les confessions, en fait c'est une longue série de prières où il dit je relis ma vie pour dire quoi ? Dans ma vie je crie, je demande, je pleure, et ça me conduit à dire Seigneur, tu es le seul qui répond à mon cri, tu es le seul qui vraiment répond à ma demande, tu es le seul qui vient sécher mes pleurs. Vous voyez, la confession c'est de dire Seigneur, tu es la réponse à mon manque. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que crier, demander, pleurer, c'est reconnaître que je manque. Confesser, c'est reconnaître que Dieu est la réponse à ce manque. Et toute prière va de ce moment « je manque » à « tu es la réponse ». Acte de foi et de confiance. Et saint Augustin dira que confesser que Dieu est la réponse, c'est un acte de foi, d'espérance et de charité. Pourquoi ? Parce que je dis, Seigneur, je crois que toi seul peux me sauver, que toi seul m'écoutes et me comprends. Ça, je le crois. J'espère, c'est-à-dire, c'est toi qui es la réponse et je sais que tu vas te donner à moi. Charité, je sais que tu as commencé à te donner à moi. Je t'aime, saint Augustin dira, en latin, il dit « je t'embrasse » et il dit « je te possède ». C'est-à-dire que tu te donnes, donc pas « je te possède » au sens où je te tiens, mais tu te donnes à moi, tu es déjà donné à moi, pas seulement dans le futur, déjà c'est vrai. Et là, je reconnais que je manque, j'appelle, je reconnais que tu te donnes en plénitude dans l'éternité, mais déjà maintenant, on a le cœur de toute prière. Alors ça, je voudrais qu'on s'y arrête, parce que dans toutes les formes de prière, au fond, il y a cette structure-là, ce squelette-là. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples. On va essayer de prendre des exemples très divers. Alors, le premier exemple que je vais prendre, c'est l'oraison. Donc l'oraison silencieuse, alors, on peut la faire à la manière carme, on peut la faire à la manière plus jésuite, peu importe. Le but de l'oraison, alors chez les carmes, on va dire, on va soit prendre un livre, la parole de Dieu par exemple, les textes du jour, et essayer de prendre conscience que Dieu est présent en moi. Chez les jésuites, on va méditer, faire une méditation, ceux qui ont fait les exercices de saint Ignace connaissent ça. Hein. Alors si on prend la méthode complète, on prend par exemple un texte, et puis on essaye d'imaginer que voilà, Jésus au jardin des oliviers, on se représente le lieu, les oliviers, les apôtres qui sont là, et puis on essaye de se placer nous-mêmes dans cette scène-là, donc on fait un travail avec l'imagination. Mais le but c'est quoi ? C'est d'arriver à ce moment d'oratio, c'est-à-dire après avoir fait un travail préparatoire, qu'est-ce que je dis au Seigneur. Voilà, soit j'ai médité par l'imagination, soit je suis entré dans le recueillement en essayant de trouver la présence de Dieu en moi, mais il y a un moment où je suis face au Seigneur. Et tout le travail de la prière, des techniques de prière, c'est de se mettre dans ce moment où je suis face à lui. Non pas que j'y étais pas avant, mais que là j'en ai pris conscience. Donc le travail de préparation, c'est juste prendre conscience que je suis face à Dieu. Et moi j'aime beaucoup à ce moment-là méditer la parabole des noces. Vous savez, j'ai pas pris la référence du texte, mais l'homme qui est rentré sans le vêtement de noces. C'est une parabole dure, parce que l'homme est jeté dehors, là où sont les pleurs et les grincements dedans. Pas facile comme texte, hein. On a l'impression que le Seigneur est dur et intraitable, comme si, vous voyez, parce qu'il est rentré sans l'habit de noces, par effraction. Mais si on lit bien le texte, le maître, l'époux, dit à celui qui est rentré sans l'habit de noces, « Mon ami », donc il s'adresse à lui avec bienveillance, « Mon ami, comment es-tu rentré ici ?» Et celui qui est rentré sans l'habit de noces ne répond rien. Moi, j'aime bien lire dans cette parabole une parabole sur la prière. Toute prière arrive à cet instant où le Seigneur me dit « Mon ami, comment es-tu rentré ici » C'est-à-dire « Que fais-tu en face de moi ?» Et il attend une réponse. Si je me tais, c'est-à-dire si j'ai rien à lui dire, alors effectivement, il me dit « Éloigne-toi de moi. » Mais qu'est-ce qu'il attend ? Il attend « Clamatio, deprecatio et genitus ». C'est-à-dire que quand je suis face à Dieu, je dis « Seigneur », ça c'est un cri, voilà, « Seigneur, je te reconnais, je t'appelle, je te demande, je pleure sans toi. » Voilà, c'est le cœur de la prière, c'est premier pas dans la prière, c'est ça. Je suis face à toi, je te parle comme à mon maître, comme à mon Seigneur, comme à mon ami. Parce que dans le cri, il y a tout ça. Je m'adresse au Seigneur, à mon Dieu, à mon Créateur. Mais si je m'adresse à lui en l'appelant, en gémissant, ben je ne gémis pas devant n'importe qui, je pleure devant mon ami. Donc, vous voyez, dans ce face-à-face, à ce moment-là, je m'adresse à celui qui est à la fois mon maître et mon confident. Et je lui mets, j'allais dire, j'étale tout sur la table. Comme disent les jeunes, je sors mes tripes. C'est pas très joli comme expression, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Tout ce que je suis. Alors, peu importe ici si je le fais avec sensibilité ou pas, c'est-à-dire il y a des jours où je vais avoir envie vraiment de pleurer. Il y a des jours où dans la prière, je vais sentir dans mon émotivité, mon cri. Je vais sentir, je n'en peux plus, je vais dire au Seigneur, je craque, je ne supporte plus mon patron, mon évêque, mon supérieur, mon curé, mon mari, ma femme. Mais vous voyez, c'est très humain. Je dis ça à mon ami, je me confie. Et puis plus profondément, j'ai besoin de toi, sauve-moi. Sauve-moi car je suis un pécheur. Vous remarquerez que dans l'Évangile, c'est toujours le cri de ceux qui demandent une action de Dieu, une guérison. « Aie pitié de moi, sauve-moi. Jésus de Nazareth, sauve-moi, aie pitié de moi. » Voilà, c'est cet appel. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur dans la prière d'aller au bout. Il me semble, c'est une opinion personnelle que je vous donne ici, hein, que souvent, nous enjambons cette étape par habitude. Je dirais que c'est l'étape des chrétiens habitués. Vous voyez, des chrétiens qui font un peu toutes les formations, la formation permanente et tout ça. Se dire, bon, ça je sais. Vous voyez, pour moi qui chante l'office plusieurs fois par jour, Dieu vient à mon aide, c'est bon, c'est l'introduction. C'est pendant ce temps que je cherche la page, quoi. Hein, on est tellement habitué qu'on intériorise plus ce cri parce qu'on considère qu'on est déjà dans la réponse. Et Il me semble que souvent, on est déçu par la réponse parce qu'on n'a pas creusé la première étape. Donc, voilà. Je vous invite à méditer ça aujourd'hui. Dire, allez, je vais prendre soin de crier, demander, pleurer. Voilà, et de le faire avec tout ce qu'on est. Vous voyez, de prendre une minute pour crier vers le Seigneur, une minute pour pleurer, une minute pour demander. Et de dire, voilà, sur quoi je vais pleurer. Et parfois, c'est des larmes physiques qui sortent. Si elles ne sortent pas, il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour ressentir. Mais notre cœur pleure. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de poser cette étape. C'est, alors, pour saint Augustin, Dieu se donne à la mesure de notre désir. J'avais un professeur qui nous disait, qui était du Sud, j'ai grandi à Marseille, et donc quand il nous expliquait ça, il disait, tu vois, c'est pas compliqué. Quand tu fais la sieste, il parlait de la Saint-Marseillais, il disait, quand tu fais la sieste, tu fermes les persiennes, et plus tu ouvres les persiennes, plus le soleil y rentre. Et bien, plus tu ouvres ton désir, et plus Dieu rentre dans ton cœur. Et nous, ça nous parlait. C'était très, très physique pour nous. Et vous voyez, plus j'ouvre ici, plus Dieu se donne. Dieu ne se donne qu'autant qu'il est désiré. Il y a une sorte de loi mathématique. Je ne sais pas comment on écrirait ça, vous demanderez à des mathématiciens, mais il faudrait l'écrire en symbole. Là, plus je désire, plus Dieu se donne. Moins je désire, moins Dieu se donne. Pourquoi ? Parce qu'il ne force pas la porte. Il n'entre pas par effraction. Donc, le désir, cette étape du cri, de la demande, du pleur, c'est absolument nécessaire de l'ouvrir grand, de prendre le temps d'élargir ton désir, d'élargir notre désir, comme dit saint Augustin. Donc voilà la première étape. Deuxième étape, c'est la réponse de Dieu. Donc la réponse de Dieu... Alors j'entre dans la confessio, et Dieu, je proclame que Dieu est la réponse. Alors cette réponse de Dieu, dans la foi, l'espérance et la charité, qu'est-ce qu'elle est ? Saint Augustin nous répond, c'est Dieu lui-même. Dieu se donne. Et alors il prend comme exemple de la prière tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la première étape. L'Ancien Testament, c'est une longue suite de cris, de demandes et de pleurs, disant « Viens, Seigneur !» Et c'est exactement l'Avent. Vous voyez, quand on lit pendant l'Avent, tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils appellent. Nous, on le chante « Venez, divin Messie, viens, Seigneur Jésus, la terre est prête pour t'accueillir. » Que les cieux se déchirent et que le juste pleuve comme la pluie. Vous voyez, c'est comme ces agriculteurs qui disent « pourvu qu'il pleuve ». Vous voyez, imaginez dans un pays où la pluie est nécessaire et où on attend la pluie pendant des mois, tous les jours, le cultivateur qui lève les yeux vers le ciel et qui dit « pourvu que ce nuage se déchire et que descende sur nous l'eau salutaire ». Et voilà... Faites l'expérience de vos désirs profonds, vous voyez. Quand on désire quelque chose qui ne vient pas et qu'on attend, voilà, c'est ça. Tout ça, c'est l'Ancien Testament, tout ça, c'est le premier pas de ma prière. Et comme dit saint Augustin, la réponse du Seigneur au désir dans l'Ancien Testament, c'est le Christ. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui se donne. Et donc, dans ma prière, souvent on me dit, est-ce que Dieu m'a exaucé ? Est-ce qu'il a répondu à ma demande ? Eh bien, il répond toujours parce qu'il se donne toujours. Et nous, on demande des choses. Seigneur, accorde-moi la guérison de mon ami, accorde-moi la paix du cœur, accorde-moi la résolution d'une tension dans la famille, etc. C'est très légitime. Mais on est parfois déçus parce que nos prières ne sont pas exaucées. Mais, en fait, elles ne sont pas exaucées telles que nous les avons formulées. Parce que ce que nous demandions, même si nous ne le savons pas, c'est toujours Jésus lui-même, Dieu qui se donne. Et donc, Dans une... Je vais prendre un exemple. Alors, je prends un exemple personnel. La semaine dernière, j'ai accompagné une dame, une jeune dame, et qui hésitait pour un avortement. Donc, c'était assez dramatique, c'était très lourd. J'ai vraiment prié, et avec confiance, je dis, Seigneur, accorde à cette femme la paix du cœur. Elle voulait garder son bébé, son compagnon l'a fait à l'avortement. Voilà. Accorde-lui aussi la force, la liberté. Et puis finalement, elle a avorté. Et on accompagne. Et je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et vous voyez, dans ces cas-là, on dit toujours, j'ai pas assez prié. C'est de ma faute. Comme si Dieu était une espèce de tyran qui disait, allez, vas-y, mets encore du poids dans la balance et je te donnerai quelque chose. C'est pas ça. Simplement... ce que je demande au Seigneur, Dieu ne va pas forcer la liberté de cette femme ni de ce couple, mais ce que je sais, c'est que Dieu va se donner. Alors, il aurait pu se donner dans la force, mais là, il va se donner dans cette souffrance. C'est-à-dire que cette femme, je sais qu'en appelant pour elle, Dieu ne forcera pas sa liberté, mais Dieu viendra l'accompagner jusque dans la souffrance qu'elle vit, jusque dans la meurtrissure qu'elle a vécue à ce propos. Et vous voyez, pour nous, c'est mystérieux, parce que nous, on dit, je demande, tu donnes, c'est réglé. C'est mathématique. Maintenant, c'est, je demande, tu te donnes, et donc je vis avec toi. Et je vais vivre avec toi ma souffrance, je vais vivre avec toi ma déception, je vais vivre avec toi ma joie, mais je ne suis plus seul. Et vous voyez, la confession, c'est la certitude que je peux être avec Jésus. Benoît XVI disait une chose très belle, il disait « Dieu n'est pas venu pour résoudre nos crises, il est venu pour les vivre avec nous. » Et vous voyez, ce rapport entre « je désire » et Dieu se donne, il y a toute la difficulté et le combat de la prière. Parce qu'il ne faut pas se mentir, on a tous été déçus, un jour ou l'autre, et régulièrement. Parce qu'on s'était dit, Dieu va répondre de cette manière-là. Et il a répondu d'une autre manière. Et vous voyez, dans cette déception, il y a pour nous l'occasion de passer à la confessio, de dire, Seigneur, je sais par la foi, je crois que tu réponds à ma prière. Dans l'espérance, je te désire toi, et je sais que tu te donnes, et je te possède déjà dans l'amour. Je t'embrasse déjà dans l'amour. Y compris quand je ne le vois pas, voire même quand je fais l'expérience inverse. On lisait, nous, à midi, là, on a la lecture au repas, en ce moment, on a une lecture détendante, qui était censée être détendante, on lit un tout petit roman de Jack London qui s'appelle Le Loup des Mers. C'est très rapide. Et dans ce Loup des Mers, on lisait à midi, ça m'a frappé. Donc le cuisinier qui s'appelle Mudrich, c'est une crapule finie, qui est un assassin, menteur, etc. Et puis à un moment, il se fait tabasser par un de ses compagnons et puis il pleure et il dit « Vu tout ce que j'ai fait dans ma vie, je sais que Dieu m'a abandonné. » Cette certitude d'être abandonné, c'est exactement le contraire de la confession. Vous voyez, on peut confesser la présence de Dieu avec la certitude qu'on est pécheur. On peut confesser la présence de Dieu avec la certitude que Dieu nous conduit et qu'on est en train de progresser. Mais peu importe, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est dire « Il m'a abandonné, je suis seul. » C'est le cœur de la prière, c'est cette louange qui fait monter vers Dieu notre reconnaissance parce qu'il ne nous a pas laissés seuls dans notre péché, dans notre conversion, dans notre progression, peu importe.
Allez, pourtant, Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Enfin, il reprend un psaume.
Alors, très, très bonne question. Pourquoi Jésus le dit-il ?
À ce moment-là.
Il nous le dit pour nous dire « Je sais que votre tentation, c'est de vous croire abandonné. » Parce que si on prend tout le psaume qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ça finit par la confiance. Donc il nous dit ce sentiment-là d'abandon, de solitude, je l'ai vécu parce que j'ai un cœur humain comme vous. Donc, vous voyez, la prière de Jésus en tant qu'homme est passée par ce sentiment d'abandon, de solitude. Mais la prière, c'est toujours ce sentiment d'abandon qui est dépassé, outrepassé, pour entrer dans la confession, « Seigneur, tu es avec moi, tu te donnes à moi. » Et là, vraiment, on a le cœur de toute prière. C'est cet acte de foi, d'espérance, de charité. « Seigneur, tu te donnes, tu réponds à mon désir. Quoi que je sente, quoi que j'expérimente, quoi que je vois autour de moi, ça ne supprime pas. » Vous voyez, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que la réponse qui est Dieu lui-même ne supprime pas mon cri, ma demande et mes pleurs. Clamatio, deprecatio, gemitus. Mais au cœur même de ce désir qui pleure, qui crie et qui demande, Dieu est là. Et Augustin méditera sur une contradiction apparente de l'Écriture. Jésus dit « Je te donnerai une eau qui étanchera ta soif, qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. » Ça, à la Samaritaine. Et dans le livre de la Sagesse, il y a l'inverse, c'est « Qui me mange a encore faim, qui me boit a encore soif. » Et Augustin dit c'est quoi, comme disent les jeunes, c'est quoi le twist ? Pourquoi semble-t-il qu'il y a une contradiction ? Et il dit, mais non, c'est vrai à deux niveaux différents. Dieu, quand il se donne, il comble notre soif, il comble notre désir. Mais il ne se donnera complètement que dans l'éternité. Sur terre, nous faisons l'expérience que plus il se donne, plus nous le désirons. Et donc, notre désir croît avec notre prière. Et ça, c'est vraiment l'expérience des saints. Quand on lit Mère Teresa, le journal de Mère Teresa, c'est frappant. Plus elle entre dans la prière, plus elle pleure, plus elle crie, plus elle demande, en disant « Seigneur, je ne sais plus si tu es là, si tu n'es pas là, j'ai l'impression de ne plus avoir la foi. » C'est pas drôle à lire. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu quelques pages du journal de Mère Teresa. C'est dur et nous, parfois, c'est trop violent. Parce qu'on entre dans l'approfondissement de cette demande, de ce désir qui est abyssal au cœur de l'homme, qui n'a pas de fin. On lit ça aussi, moi je pense à justement un autre tempérament, c'est Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, il fait l'expérience, à la fin de sa vie, il se confesse tous les jours. On lui dit, peut-être un peu beaucoup quand même. Et non, il dit, j'ai besoin de Dieu. Voilà. Et il est comme mangé de l'intérieur par un feu qui lui dit, j'ai besoin encore plus du Seigneur. Et il devait aller, pour aller de son bureau, enfin de sa chambre, au bureau où il recevait, il devait traverser la chapelle. Il était complètement impotent. Et quand il passait dans la chapelle, il voulait absolument faire la genouflexion, se mettre à genoux. Et il avait besoin de deux personnes. Donc on lui a dit, écoutez, à votre âge... Et il dit, non, je ne peux pas. Voyez, j'ai besoin de dire, en me mettant à genoux, Seigneur, hâte-toi de me secourir. Donc l'approfondissement du désir, c'est le mouvement de la prière. Et je voudrais vous faire sentir que ce que nous dit saint Augustin là, c'est l'exact contraire de ce qu'on appelle le développement personnel. Quand vous allez chercher un bouquin sur la prière aujourd'hui, moi ça me fait mettre en colère chez Cultura ou à Leclerc ou autre, là, on vous dit c'est au rayon développement personnel. Mais le développement personnel, le but, précisément, c'est de plus désirer, c'est de dire tout va bien, je suis zen, j'ai besoin de rien. Mais le but de la prière, ce n'est pas de nous mettre dans cet état-là. Et vous voyez, parfois on a un peu la tentation comme chrétien de dire, on a notre technique de développement personnel, moi je suis super bien, je suis ok, je suis zen, j'ai besoin de rien, etc. Parce que j'ai la prière, c'est pas vrai. Alors, la prière nous apporte la paix, elle nous apporte la joie, mais elle approfondit notre demande, notre pleur et notre cri, toujours. Si quelqu'un, c'est un cistercien qui est mort dans les années 80, disait ça, moi, qui m'a beaucoup marqué. Il m'avait dit, vous savez, le moine qui a vécu 60 ans dans son monastère, on ne lui en remontre pas. Il disait, ils ont des prédicateurs qui viennent pour les retraites. Il disait, quand un prédicateur parle de la prière, au bout de quelques phrases, je sais s'il parle de quelque chose qu'il expérimente ou s'il parle de quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. Vraiment, vous voyez, cette souffrance, ces pleurs, cette demande, je fais l'expérience que j'entre dans la souffrance de Jésus. C'est plus la mienne que je présente pour demander d'en être libéré. Elle est assumée dans la souffrance du cœur de Jésus. Cette grande prière du cœur de Jésus devient la mienne.
Mais est-ce qu'on en est capable?
Peu importe, un peu, beaucoup, passionnément. Vous voyez, on va le faire sien. Chacun à sa mesure, au moment où on en est. Il y a des moments où on en est capable beaucoup, des moments où on est capable un tout petit peu. Mais le mouvement général de la prière, c'est voilà, je crie, je demande, je pleure, je confesse que tu es la seule réponse, donc tu te donnes à moi, donc à nouveau je peux crier, demander, pleurer en toi, je confesse que tu es la seule réponse, et tu te donnes à nouveau à moi. Et voyez, il y a ce mouvement circulaire. Et faire oraison, c'est ça, c'est Seigneur, je te demande toi, donne-toi à moi. Mais je sais dans la foi que tu te donnes à moi. Alors je te demande à nouveau, Seigneur, donne-toi à moi, mais je te le demande en sachant que tu es en moi. Et puis, et ainsi de suite. Et puis, alors après, il y a les distractions, on s'arrête. Tiens, les frères n'ont pas fait le ménage. J'ai oublié de mettre les annonces sur la porte. Enfin, voilà, c'est mes distractions quotidiennes. Tiens, j'ai cours aujourd'hui, j'ai pas préparé mon cours, tout ça. Et puis, Seigneur, fais que ce cours soit pour ta gloire. Je demande. Tu es en moi. Je confesse que toi, Seigneur, tu es en moi. Donc je me livre à toi. Et donc je te redemande, mais cette fois en ton nom. Et ainsi de suite. Vous voyez ce mouvement de prière simple. C'est pas une question de technique. C'est une question d'entrer dans le jeu de Jésus. Alors, je voudrais qu'on finisse en priant. C'est un extrait des Confessions, donc c'est page 35. Pour être dans ce moment-là, en disant « Seigneur, tu es la réponse à mon cri. » Donc c'est la toute petite prière qui est à la fin. « Je te rends grâce, Jésus, je te rends grâce, ô ma douceur et mon honneur, et ma confiance. Mon Dieu, je te rends grâce pour tes dons, mais c'est à toi de me les garder, car ainsi tu me garderas, et se développera et se parachèvera ce que tu m'as donné, et je serai avec toi, parce que si je suis, cela aussi c'est toi qui me l'as donné. Seigneur Jésus, ce que je suis, c'est toi qui me l'as donné. Je reçois ce que je suis de toi. Je me reçois de toi. Quand je crie, quand je demande, quand je pleure, la réponse, c'est toi. Tu te donnes à moi. Pour que je te demande à nouveau. Alors je te dis ce que disait un saint ermite, Saint Nicolas de Flux, donne-moi à toi. Prends-moi et donne-moi à toi. Pour que tout en moi soit toi. Non seulement à toi, mais transformé en toi.
Vous venez de suivre « Qu'est-ce que la prière ?», un enseignement du père Michel Leclerc. Il était enregistré à l'occasion des sessions à l'école de Saint-Augustin proposées par l'école de prière de la formation permanente du Béarn. C'était à Pau le 9 décembre 2025.